Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.
Bonjour les timbrés, on est sur le timbre du coin à Timbre FM au 106.6. Aujourd'hui avec nous au studio, Guillaume Habert qui va nous parler de son cabinet mirifique du professeur Nicéphore Onésime Berlupin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le cabinet mirifique ?
Alors, en fait, c'est un musée, une espèce de cabinet de curiosité axé sur l'imaginaire sur lequel j'ai commencé à travailler il y a environ 10 ans.
Et le cabinet aujourd'hui ?
Il a ouvert cet été, mi-juillet, sur la commune de Saint-Raoul.
Et ça vient d'où, les cabinets de curiosité ?
Alors, à la base, au Moyen-Âge, les cabinets de curiosité, c'était surtout le clergé qui exposait des reliques religieuses pour essayer d'attirer le peuple dans les églises et pour les éduquer dans la religion. Puis, ça a commencé à évoluer. Il y a eu une période où il y a eu tous les grands explorateurs qui ramenaient des objets étranges des Amériques, de tous les pays qu'ils visitaient. Et ça leur permettait un peu de se faire de la pub auprès des rois, de trouver des mécènes. Les rois eux-mêmes les collectionnaient pour un peu impressionner leurs amis, tout ça. Et ensuite, à l'époque des Lumières, ça a été un peu l'inverse. C'est l'époque des premiers cabinets de physique, de chimie, d'électricité. Et là, le but était un peu d'éloigner le peuple de la mainmise de l'Église et donc de les éduquer sur la science, sur toutes ces choses-là. Et ça s'est un peu perdu et ces derniers temps, ça revient un petit peu à la mode. On voit régulièrement des expositions sur les cabinets de curiosité à l'ancienne et même on peut faire entrer un peu n'importe quoi dans le thème du cabinet de curiosité. En fait, on peut y mettre des œuvres d'art, des curiosités de la nature, des machines. Avant, je faisais des études d'art du spectacle à Caen et j'ai des gros soucis de santé et j'ai dû arrêter mes études. Et pas très loin de Caen, il y avait le festival Ciné Dragon. J'avais pris contact avec eux pour être bénévole et je n'ai pas pu, du fait du retour chez mes parents, les aider. Mais j'ai commencé à créer des choses, à prendre des cours de reliure, de calligraphie, d'enluminure pour le plaisir. Ils ont vu que je commençais à créer des choses, à faire des trucs qui leur plaisaient bien et où ils m'ont recontacté en me demandant si je pouvais leur faire une espèce de muséum fantastique. Donc j'ai fait une première édition avec eux où j'ai présenté une collection de dragons, des choses en rapport avec les vampires, voilà. Et 2 ans après, il y a eu une deuxième édition où là j'avais un assez grand espace que j'ai rempli avec beaucoup d'objets étranges, des flacons de médicaments, des machines bizarres que j'ai inventées. Plein de choses. Et après, ma santé s'est encore aggravée, donc moi j'ai dû m'éloigner du festival ils m'ont dit si tu veux revenir à une prochaine édition, pas de souci. En attendant, tu fais ce que tu veux avec l'exposition parce que c'est ton travail, t'as fait des dizaines d'heures dessus. Et du coup j'ai commencé à l'exposer de mon côté sur des festivals. J'ai fait plusieurs fois au festival Tomahawk à Kérien. Il y a 2 ans, j'ai exposé aux Utopiales. Il y a 3 ans, je crois, grâce au Centre de l'Imaginaire Arthurien, j'ai fait l'inauguration de la médiathèque de Saint-Malo, la Grande Passerelle, à Noël. Donc voilà, mon exposition se déplace, puis j'adapte en fonction du lieu que j'ai à ma disposition.
Donc, tu es un artiste qui crée des objets imaginaires pour en raconter des histoires créées de A à Z.
Elles ne sont pas forcément créées, c'est souvent des histoires vraies.
Ouais.
Sur lesquelles je me base et après je rajoute par-dessus un petit peu de magie, un petit peu d'imaginaire. L'idée, c'est un peu de faire croire aux gens à des choses qui n'existent pas forcément. En laissant croire que c'est vrai, en mélangeant le vrai et le faux pour qu'on puisse pas trop discerner la réalité de l'imaginaire, quoi.
D'accord, donc le cabinet mirifique lui est basé à Saint-Raoul. Et est-ce qu'il y a un thème à ton cabinet qu'on peut visiter du coup ?
Alors en fait, l'idée c'est que c'est la collection privée d'un scientifique, le professeur Berlupin, qui est né au 19e siècle, il a beaucoup voyagé, il a rencontré... le docteur Frankenstein, enfin voilà, c'est mêlé à l'imaginaire. Et donc, il a récolté beaucoup d'objets magiques en voyageant à travers le monde, de curiosités sur les créatures cryptozoologiques, sur le vampirisme, sur les dragons. Et moi, j'apporte tout ça aux gens, je leur permets de découvrir sa collection privée pour montrer que le monde n'est pas tel qu'on le croit, qu'il y a un monde un petit peu caché. Et donc les gens peuvent y croire s'ils veulent, ils peuvent être totalement critiques en disant bah, c'est faux, mais après s'ils cherchent un petit peu, ils verront que dans toutes mes histoires, bah, il y a pas mal de choses qui sont vraies, et après c'est à eux de croire ou pas, ou de faire leur propre recherche s'ils veulent en savoir plus.
Tu parlais d'un musée, en fait, tout à l'heure. C'est un parcours libre. C'est quand on arrive dans ton cabinet, comment ça se passe ?
Alors, quand on entre dans mon cabinet, on se retrouve d'abord dans l'accueil où je bricole. J'ai amené une grosse partie de ma bibliothèque à la disposition des gens. Donc, bibliothèque qui traite des contes et légendes, qui traite de la littérature victorienne, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Jules Verne. J'ai mis tout ça à disposition des gens pour, s'ils sont curieux, s'ils veulent en savoir plus. Moi-même, je suis toujours prêt à leur donner des pistes de lecture ou des films. Il y a aussi une partie boutique, une partie atelier où moi, je bricole sur place. Et ensuite, ils peuvent rentrer dans le cabinet et ils sont libres. Ils se baladent comme ils veulent. Chaque objet a sa petite histoire à côté. Ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont restés une demi-heure, quand d'autres sont restés 3 heures pour essayer de tout lire. Moi, je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Après, bah, comme pour l'instant, je suis tout seul, je ne pourrais pas faire à la fois l'accueil et les emmener visiter le cabinet. Peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Et tu parlais d'une boutique. Dans cette boutique, on pourrait trouver quoi ?
Alors, dans la boutique, il y a des faits momifiés, il y a des faits séchés aussi, il y a des flacons d'ingrédients magiques de l'univers d'Harry Potter, il y a des dragons momifiés aussi, il y a une amie tatoueuse a mis certaines de ses créas, des crânes d'animaux un peu modifiés, surtout des choses en fait qui me plaisent, que j'ai fait en me faisant plaisir, en me disant bah, j'ai envie d'avoir ça. Et c'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs, donc si ça n'existe pas, je vois pas de souci à le créer. Et ben, en général, ça plaît bien aux gens.
Et quel type de public tu t'adresses ?
C'est pour tout le monde.
Tout le monde.
C'est pour tout le monde. Quand j'ai exposé sur des festivals, il y avait des familles, il y avait des gens qui étaient plus dans le domaine de l'imaginaire. J'ai eu des gens qui étaient à fond sur les cabinets curiosité, donc ils reconnaissaient tel animal cryptozoologique, tel truc, telle chose, voilà. Il y a des parents qui rentrent complètement dans le truc en disant aux enfants bah « Oui, c'est des vrais dragons, puisque le monsieur le dit. » Après, il y a des enfants avec des étoiles dans les yeux. « Waouh, ouais, c'est trop bien !»
Par exemple, on pourrait inviter des centres de loisirs, des écoles. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent se faire.
J'ai déjà eu des groupes d'enfants. J'ai exposé à Campénéac pour l'école publique. Les enfants sont venus. Ils avaient un petit questionnaire à remplir. Donc, ils se sont promenés. Ils ont cherché les réponses. Les adultes, on était là pour les aider, pour les aiguiller un peu. Mais non, ils sont bien amusés. Ils étaient contents. Ils ont appris des choses. Ils sont émerveillés. C'est le but.
Ouais, donc ça sait que ça marche, quoi.
Voilà.
Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite histoire d'un objet qu'on pourrait trouver dans ton cabinet pour attirer l'attention des auditeurs et...
Entre 1000 objets, c'est pas facile.
Bah oui.
Mais un que j'aime bien, c'est l'histoire à la base, c'est... Theodore Roosevelt, donc, qui a été président des États-Unis, Un jour, il devait faire un discours face à un public. Et juste avant, il y a un fanatique, je ne sais plus si c'est un fanatique religieux ou politique, qui a tiré dessus à bout portant. Il s'est pris la balle dans la poitrine, au niveau du cœur. Donc tout de suite, il y a les services secrets qui ont attrapé l'homme. Et ils ont essayé d'emmener Roosevelt à l'hôpital. Mais Roosevelt, en fait, c'était un gros bourrin, en fait, ce mec-là, quoi. Il était ceinture noire de karaté ou de judo, je sais plus. Il a fait des trucs de fou dans sa vie. Il a dit non, mais ça va, ça saigne pas, je peux faire mon discours, vous embêtez pas. Donc il a fait, il est allé devant l'assemblée où il devait faire un discours. Il leur a dit bon, vous êtes peut-être pas au courant, mais on vient de me tirer dessus. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, je vais faire mon discours. Le public qui lui dit non, mais ça va pas, allez à l'hôpital. Non, non, mais c'est bon, tout va bien. Il a fait un discours pendant une heure et demie. Et puis après, il est allé lui-même à l'hôpital. Et en fait, on n'a jamais pu lui retirer la balle parce qu'à l'époque, les connaissances chirurgicales permettaient pas, c'était trop dangereux de lui retirer la balle. Donc il a passé le reste de sa vie avec la balle dans la poitrine. Et moi, du coup, j'ai la balle en question, et l'histoire un peu magique qu'il y a derrière, c'est que du fait de cette histoire-là, de l'émotion qu'elle a suscitée, elle a acquis un pouvoir, c'est de pouvoir résister, si on tient la balle, de pouvoir résister à une blessure mortelle pendant 1h30, le temps de son discours. Voilà, donc c'est plein d'histoires vraies, où l'idée c'est que du fait de la personnalité qui a subi ça, ou alors de l'événement particulier, des émotions que ça a suscité, l'objet a acquis une espèce de pouvoir en canalisant des énergies, pouvoir qui est lié à l'événement particulier ou à la personne. Et du coup, après, les gens doivent discerner ce qui est vrai. Donc l'histoire en soi, elle est vraie. Il a vraiment fait son discours pendant 1h30 avec la balle dans sa poitrine. Et l'histoire du pouvoir de la balle est inventée. Mais ça rajoute un petit truc qui fait qu'on s'en souvient plus facilement, je trouve. C'est plus mémorable.
C'est ça, ça fait des mémotechniques.
Voilà, et donc j'ai plein d'histoires comme ça.
Et ben, je vais vous proposer une petite pause musicale avec Aurora, All is Soft Inside. On est de retour dans le timbre du coin avec Guillaume Haber du cabinet Mirifique, le professeur Nicéphore Onésime Berlupin. C'était une musique de Aurora, All is soft inside, c'est pas facile à dire, que Guillaume, tu avais choisi. Je viens de nommer ce professeur Nicéphore Onésime Berlupin, qui est le nom de ton cabinet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient ce nom ?
Alors, Berlupin, en fait, je cherchais un nom qui soit un peu curieux déjà, et c'est une amie qui m'a beaucoup aidé. En fait, Berlupin, il y a trois sens. Ber, déjà, c'est la deuxième syllabe de mon nom. Donc, ça faisait un petit peu penser à moi, un petit peu égocentrique, mais bon, voilà. Et ensuite, Lupin, bah, c'est Arsène Lupin, donc, et au milieu, du coup, il y a Berlu. Et avoir la Berlu, c'est voir quelque chose qu'on n'arrive pas à croire. Et ça se rapporte bien au cabinet de curiosité, où il y a plein d'objets étranges, on se dit non mais c'est pas possible, c'est pas vrai.
Et Nicéphore Onésime, ça c'est complètement inventé
Nicéphore, c'est le prénom de Nicéphore Niepce, donc qui a inventé l'appareil photo. Et Onésime, c'est juste que je cherchais un second prénom, parce qu'à l'époque ils avaient souvent un second prénom comme ça, et Onésime, ça m'a paru suffisamment peu connu pour que les gens s'en souviennent un peu plus, peut-être, je sais pas.
Ton cabinet, il est ouvert du coup depuis mi-juillet 2019, après plusieurs années de création de ton côté. Dans ce cabinet, on peut retrouver donc des objets qui racontent, qui mélangent en tout cas des histoires vraies et de l'imaginaire pour en tout cas, laisser la liberté aux visiteurs de lâcher prise et de se laisser emporter, émerveiller auprès de tous les objets qu'on peut, les 1000 objets, du coup, tu disais, qu'on peut trouver dans ton cabinet. Et comment on fait pour trouver ton cabinet ?
Alors, il est un petit peu caché, lui aussi. En fait, il est à Saint-Raoul. Alors, Saint-Raoul, c'est quand vous êtes à Saint-Cyr-Couët-Quidan, c'est la petite rue en face de l'entrée du camp militaire qui descend à côté de la brasserie. Et donc, Saint-Raoul, c'est un village qui a été rattaché à guerre. Et donc, il faut aller jusqu'à la place de l'église. Bon, l'église, c'est facile à trouver, il suffit de regarder en l'air. Derrière, il y a l'ancienne école. Et en fait, le cabinet se trouve dans un grand préfabriqué qui se trouve au fond de la cour de l'école. Alors, il ne faut pas rentrer par la grille de l'école parce que maintenant, c'est privé. Il faut prendre la toute petite rue qui est à gauche. Alors, elle s'appelle l'école Fortuné-le-Quinf. Donc, il faut prendre la toute petite rue qui est à gauche entre l'école et une belle maison rouge. Et prendre ensuite la petite rue à droite, et là vous verrez le local. Il y a des tentures aux fenêtres, il y a des affiches avec des petits textes bizarres, et même encore une citrouille à la fenêtre.
En fait, c'est déjà l'aventure pour y aller, quoi.
Un petit peu.
C'est
oui.
Parfait. Ça nous met dans le bain. Pour construire ce projet, qu'est-ce qui t'a permis du coup de le faire ? Est-ce qu'il y a eu des financeurs, des facilitateurs ?
Alors j'ai eu l'aide de Madame Sauger-Moutel de la mairie de Guerre, qui s'occupe de la culture à la mairie de Guerre, qui a été très intéressée par mon projet, et elle a réussi à convaincre Monsieur le maire et tout le conseil municipal de l'opportunité de me donner ma chance. Donc, merci à elle et à Monsieur le maire et à tout le conseil municipal. J'ai également eu l'aide de l'association Vaincre la mucoviscidose et de l'association Grégory Lemarchal, parce que moi-même, je suis atteint de mucoviscidose et je suis transplanté pulmonaire. Et du coup, en tant qu'handicapé, j'ai eu l'aide aussi de la GFIP, donc qui aide les personnes handicapées à créer
leur activité, voilà, un projet.
C'est ça. Et j'ai également fait un crowdfunding.
Qui a été lancé quand ?
Il avait été lancé mi-juin et s'est terminé mi-juillet.
Et ça a fonctionné ?
Ça a fonctionné. Je crois qu'on a atteint, 150%.
Plutôt un beau résultat.
C'est bien.
Je te remercie d'avoir participé à notre émission. Je vais redonner les contacts au Facebook, tu me disais tout à l'heure. Donc, cabinet Mirifique avec un F et QE. Pas hésiter à chercher sur Internet, vous tomberez dessus.
En tapant cabinet mirifique, Berlupin, on trouve très facilement.
En ce moment, on est donc dans une période hivernale et il est préférable du coup d'appeler avant de se déplacer pour être sûr que tu sois donc à ton atelier. Parce que tu n'es donc pas ouvert au quotidien, en tout cas sur cette période-là. Je rappelle aussi que c'est un espace ouvert à tout public, que ce soit des jeunes, des adultes, des familles, des groupes scolaires ou extrascolaires. Et pour te joindre, 06 32 08 12 23. Donc à bon entendeur pour toute personne qui a envie de venir pendant les week-ends d'hiver froids et pluvieux, découvrir l'imaginaire du cabinet mirifique à Saint-Raoul. Merci beaucoup Guillaume.
Merci.
Et à bientôt.
Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.